le maintien des émissions d'arsenic au niveau actuel, c'est pas tolérable.
Les émissions doivent être baissées.
Bonne fin de journée tout le monde. Le statu quo n'est plus acceptable à Rouyn-Noranda. C'est la conclusion du directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, qui a fait le point ce matin sur le dossier des émissions d'arsenic par la fonderie Orne. On a appris que si rien n'est fait, qu'on permet toujours à l'usine d'émettre 33 fois plus d'arsenic que la norme québécoise, bien, il pourrait y avoir sur 70 ans entre 1 et 14 cas de cancer du poumon supplémentaire au sein de la population qui vit près de l'usine. Très loin donc du risque négligeable d'un cas par million d'habitants. Et là, on ne parle que des cas de cancer. Mon collègue Simon Bourassa a suivi ce point de presse du directeur national de la santé publique. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Michel.
Qu'est-ce qui sera fait dans les prochains mois pour rassurer la population qui vit autour de la fonderie?
Oui, parce qu'il faudra les rassurer, tu le dis bien, Michel. Le but aujourd'hui, c'était pas de rassurer les gens. Là. Ce point de presse de la santé publique, c'était de donner l'heure juste. C'est ce que dit le Dr Boileau. Bien, ce qui sera fait, entre autres, bien, c'est de bonifier l'équipe de santé publique régionale en Abitibi en ajoutant, entre autres, trois personnes, trois ressources supplémentaires parce que d'ici le mois de septembre, on veut approfondir les études de l'impact sur la santé publique qu'ont les émissions de polluants et de métaux lourds de la fonderie Orne. Parce que, bon, l'étude qui a été présentée un peu plus tôt ce matin concernant les cas de cancer du poumon, mais on sait qu'il y a également des cas de maladies pulmonaires obstructives chroniques comme l'emphysème qui découle de ces émissions. Il y a également les grossesses, le suivi des fœtus qui va être fait parce qu'il y a des enfants, des bébés qui naissent à Rouyn-Noranda et dont la taille est plus petite que la moyenne. Donc tout ça va être étudié. On se donne un très court laps de temps, à peine quelques mois. Donc en septembre prochain, on devrait arriver avec des études qui sont un peu plus approfondies. Et je voulais s'entendre le Dr Boileau qui... ne s'en est pas caché. On a mis au cours des dernières années l'économie devant la santé publique à Rouyn.
Je crois que la balance dans tout ça a été mise du côté des bénéfices de pouvoir continuer à œuvrer sur le plan industriel, d'avoir un impact économique et qu'on a, avec les données de ce moment-là, jugé que ça pouvait être moins impactant. Mais la modernité des connaissances, leur évolution nous permet aujourd'hui de dire que ça dépasse des niveaux qui sont jugés comme corrects et qu'il faut apporter les corrections qu'il faut.
Bon, parlant de correction, il y a le ministre de l'Environnement qui a réagi aujourd'hui. C'est assez clair pour lui qu'il ne laissera pas la fonderie continuer à polluer puis à mettre en danger la santé des gens.
C'est ce qu'il dit, mais c'est non sans se cacher non plus ce qu'ont fait les précédents gouvernements. Donc, ses prédécesseurs, Michel, Benoît Charrette, qui l'a dit, les normes qui avaient été établies, les certificats donc de conformité qui permettent à la fonderie Orne d'émettre des polluants, bien, étaient trop larges, selon ce qui a été fait dans les dernières années. Ça tombe bien, selon le ministre, le certificat présent de la fonderie Orne arrive à échéance, donc il devrait être revu en fonction des normes qui seront établies. Là, on écoute le ministre.
Le timing est excellent, en ce sens que la période d'attestation de conformité se termine dans les prochains mois. Donc, ce sera l'occasion pour nous d'arriver avec une attestation beaucoup plus sévère, beaucoup plus ambitieuse. Parce qu'il faut le reconnaître, les émissions qui sont confirmées encore avec les dernières études sont de loin trop importantes. Et oui, il y aura un travail encore plus costaud qui devra être réalisé par la fonderie au cours des prochaines années.
On a compris également que ça va être un travail parallèle entre la santé publique et le ministère de l'Environnement, parce que c'est la santé publique qui va dire qu'est-ce qui est dangereux ou juste. Finalement, tu as parlé à un représentant de la fonderie Orne, propriétaire de l'entreprise Glencore. Comment il réagit? Est-ce qu'on prend la situation au sérieux?
Effectivement, on veut faire le bon citoyen corporatif en ce qui concerne la fonderie Orne et l'entreprise Glencore qui en est propriétaire. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il y a plusieurs projets actuellement qui sont sur la table pour réduire au minimum les émissions de polluants. Je laisse entendre un représentant de la fonderie.
On entend très bien et on comprend très bien les préoccupations là, des citoyens et de la population. Nous, on est engagés, on sait qu'on se sent responsable, OK, pour vraiment réduire nos émissions d'une manière plus importante. Fait que des projets qui vont être mis en place plus rapidement. Il y en a d'autres qu'on parle de plusieurs centaines de millions. Évidemment, on va prendre un peu plus de temps, de quelques années.
Merci beaucoup, Simon. Pour réagir à cette annonce, on joint à Rouyn-Noranda la médecin généraliste Marie-Pierre Lemieux. Bonsoir, docteur Lemieux.
Bonsoir.
Êtes-vous satisfaite de ce que vous avez entendu de la part de la santé publique ce matin?
Notre attente, elle était très claire envers le directeur national de santé publique pour son passage à Rouyn. On voulait en fait qu'il se positionne clairement de la même manière que nous, c'est-à-dire revenir rapidement à la norme sécuritaire pour la santé des citoyens de Rouyn-Noranda. Ça n'a pas été tout à fait le cas. En fait, on entend qu'il note comme nous un excès de risque de cancer. Il note comme nous qu'il y a plus de maladies pulmonaires, les bébés de faible poids, vous l'avez bien nommé. Mm-hmm. Tous ces impacts-là à la santé, il les reconnaît. Par contre, au niveau de la position, à savoir quelle est la norme qui doit être respectée, c'est là que, à notre avis, le bas blesse. Exactement, ouais, là, c'est pas clair. Et on a de la difficulté à comprendre pourquoi cette hésitation, pourquoi ne pas clarifier exactement. On doit revenir à la norme sécuritaire. On sent qu'il y a une espèce de négociation qui doit avoir lieu, à savoir qu'est-ce qui est acceptable socialement pour la population de Rouyn-Noranda. Eh bien, moi, je pense qu'il n'y a rien d'acceptable le retour à la norme.
En fait, pour vous, il ne devrait pas avoir une différence de normes acceptables pour Rouyn-Noranda ou pour nous ici à Montréal. Avec une cinquantaine, pourquoi? Puis je veux le souligner, parce qu'avec une cinquantaine de vos collègues, vous avez signé une lettre. Vous avez demandé au gouvernement, puis c'est ce que vous demandez toujours, qu'on ramène justement ça à un taux de 3 nanogrammes, là, et non le 100 nanogrammes, ce qui est permis en ce moment. Ça, vous ne l'avez pas eu aujourd'hui, ce message clair-là.
Non, exactement. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que c'était pas clair exactement quelle était la norme sécuritaire et qu'il fallait voir avec la population qu'est-ce qui était acceptable socialement. Mais moi, je vois pas comment une population peut se positionner pour dire « Ah, ben oui, tel excès de cancer, on trouve ça acceptable, nous. » Comment est-ce qu'on peut demander de se positionner dans le contexte où il y a des enfants qui sont impliqués, des enfants qui n'ont pas voix au chapitre, et ces enfants-là vont avoir des impacts, des décisions qui sont prises aujourd'hui. Donc, c'est pas acceptable d'essayer d'avoir un entre-deux. La norme, c'est 3, c'est ce qu'on veut.
Oui. Bon, j'ai parlé tout à l'heure en introduction là, des cas de cancer là, qui seraient plus élevés qu'ailleurs sur 70 années. Vous les voyez, les patients, les gens qui vivent du côté de Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que vous voyez comme conséquence de cette pollution-là en ce moment?
Bien, c'est sûr que c'est pas possible de dire sur l'échelle d'un échantillonnage de la population qui est suivie par un médecin de famille de voir un impact augmenter là, de ce risque-là. Moi, j'en vois des gens qui ont des cancers, mais je ne peux pas dire que ce cancer-là, c'est à cause directement de la fonderie. Mm-hmm. Mais on le sait, à cause des études de santé publique qui ont pris un pas de recul et qui nous ont dit « oui, il y en a plus à Rouyn qu'ailleurs ». Et c'est ça qui est préoccupant.
Et d'autres conséquences également. On va attendre la suite du dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Lemieux, et poursuivez votre bataille.
Merci. Bonne fin de journée.
On reste en santé pour parler d'une une autre maladie qui préoccupe de plus en plus de personnes pendant l'été et dont les cas augmentent chaque année, entre autres en Estrie, mais également dans l'ensemble de la région de Montréal, en Montérégie, entre autres, la maladie de Lyme. Bien, bonne nouvelle, les traitements administrés aux personnes atteintes de la maladie de Lyme sont concluants. C'est ce que confirme une étude qui a été publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne. On en parle avec notre collaborateur, le Dr Alain Vadeboncœur. Bonsoir, Alain.
Oui, salut Michel.
En quoi nos traitements au Québec sont-ils efficaces contre la maladie de Lyme?
Bien, l'étude du docteur Carignan, là, un médecin qu'on connaît, là, qui passe dans les médias, en fait, ça visait surtout à évaluer si le traitement était conforme à ce qui doit être fait. Et donc, c'est quelques centaines de patients. Et donc, la conclusion, en fait, c'est que le traitement est conforme, qui est bien fait. Il y avait des doutes quand même. Est-ce qu'on traite bien la maladie de Lyme au Québec? Est-ce que c'est quand même une maladie relativement récente? Donc, c'est bien traité. 99 % des patients dans l'étude, il y a une résorption des signes, en fait, de la maladie. Et donc, ça nous montre que le travail est bien fait. C'est une maladie, comme tu dis, qui augmente, qui est en émergence.
Rapidement, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont se promener dans le bois cet été, parce que c'est le temps qu'on profite de notre environnement. Les symptômes à surveiller, puis qu'est-ce qu'on fait quand on a des symptômes?
La prévention, d'abord, c'est de se protéger sur tous les jambes quand on va dans le bois, examiner si on n'a pas des tiques. Et en fait, les symptômes, c'est pas très compliqué. C'est souvent une rougeur qui apparaît et c'est un antibiotique très simple qui peut être donné rapidement, soit en prévention, soit quand la rougeur apparaît et qui est très efficace. Bon.
Dans un autre registre, les urgences débordent à un niveau rarement vu au Québec en raison de la COVID. Là, on parlait cet après-midi de 128 % de taux d'occupation dans les urgences de la province. Mais à Montréal, c'est encore pire. 139 au CHUM, 165 du côté de l'hôpital général, 177 à Lakeshore. C'est énorme. Là. Comment on est arrivé là? C'est vraiment juste à cause de la COVID?
Bien, non, en fait, non, c'est pas juste à cause de la COVID. Ça, c'est un point important. J'ai vu 128% à 13 heures. C'est dans tout le Québec, j'ai rarement vu ça, des chiffres aussi élevés que ça. Mais il y a plusieurs facteurs. Autre la COVID, c'est le manque de personnel, surtout, qui a beaucoup d'impact. Il y a des vacances, hein, les gens, les infirmières, le personnel doit prendre des vacances. Les activités aussi qui sont plus élevées que d'habitude parce qu'on veut rattraper le retard. Et le manque de lits disponibles. Mm-hmm. Il y a pas mal de patients qui sont dans les lits. Tout ça fait que ça déborde à l'urgence et pas mal, effectivement.
En 10 secondes, la solution?
Bien, actuellement, il faut soit diminuer les activités ou trouver une façon de sortir les patients qui sont dans les lits d'hôpitaux pour les amener en CHSLD ou ailleurs. Mais ça, c'est pas évident. Ça prend du personnel.
Merci beaucoup, Alain. On en souhaite du personnel. Bon, les cas de COVID sont bel et bien en hausse. Là. Encore aujourd'hui, la santé publique a annoncé plus de 1839 nouveaux cas, 56 hospitalisations supplémentaires, 13 décès. Ailleurs dans le monde, en France, en Chine, par exemple, les autorités réimposent des mesures sanitaires. Bien, demain, on aura droit à un point de presse du ministre Christian Dubé, ministre de la Santé, du directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau. C'est demain, 9 h. Le 1er juillet est derrière nous, mais il a laissé des traces, oui, des traces de déménagement qui sont visibles un peu partout à Montréal, dans les rues de la ville. Vous avez certainement vu, hein, dans certains endroits, des déchets encombrants. Ça représente un travail colossal pour les éboueurs. Mon collègue Jérôme Scalia a suivi l'une des dizaines d'équipes qui ramassent les 50 000 tonnes d'objets jetés par les déménageurs.
Ça va chercher les gros morceaux aujourd'hui, ce qu'on appelle la collecte des encombrants. Essentiellement, là, ce qu'on va être capable de récupérer dans les deux prochaines semaines, c'est 50 000 tonnes de déchets de toutes sortes. Il y a des dépôts sauvages, il y a des items qui sont déposés pêle-mêle. Les gens sont pressés d'avoir un nouveau chez soi. Puis malheureusement, bien, ils vont laisser derrière eux un environnement qui a été un peu souillé par toutes sortes de matières qu'on va laisser pêle-mêle en bordure de rue. Bien qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est du recyclage, qu'est-ce qui s'en va au vidange, qu'est-ce qui est un gros morceau. Ça veut dire quoi pour une municipalité gérer l'après-déménagement? Bien, faut voir que, à Montréal, c'est à peu près 115 000 familles, foyers, ménages qui déménagent. On a vraiment une équipe de feu ce matin. Ils font un blitz, ils travaillent très rapidement. Ce camion-là, à la fin de la journée, il va avoir 8 tonnes de matière compressée à l'intérieur. On va, comme ça, libérer la voie publique, évidemment, pour tous les autres usages. Le budget, ben c'est un budget annuel d'à peu près 60 millions de dollars, la propreté à Montréal. On a à peu près 6 000 km de rue à faire, à sillonner, pour essayer de voir où ont été laissés les objets, de les récupérer, par ça, de traiter ces objets-là. Mais si les éboueurs sont des super-héros, ils n'ont pas tout le temps des super-pouvoirs. Ce qu'on demande aux gens, au niveau de la réglementation, c'est « mettez pas plus que 25 kilos ». Alors, il faut faire attention quand on laisse en bordure de rue au poids des objets qu'on va déposer.
C'était il y a 9 ans aujourd'hui la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, le 6 juillet donc 2013. Comme le veut la tradition, la ville a mis ses drapeaux en berne. Une messe a été célébrée à l'église Sainte-Agnès et sur le coup de midi, bien, les cloches de l'église, vous avez entendu, là, ont résonné 47 fois en mémoire des 47 victimes. Il y a des élus, des citoyens qui ont aussi déposé des gerbes de fleurs près de la voie ferrée. La GRC utilise des logiciels espions depuis 5 ans pour avoir accès à des données de personnes là, sous enquête, en fait, sans en avoir informé le commissaire à la protection de la vie privée du Canada. On en parle. En fait, notre collaboratrice Mélanie Marquis, vous savez, nous l'apprenait dans la presse ce matin. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? On en discute avec un autre de nos collaborateurs, expert en numérique, Jonathan Laberge. Salut, Jonathan.
Salut, Michel.
Dis-moi, tout d'abord, qu'est-ce qu'un logiciel espion, là, pour qu'on parte tous...
Ouais, un logiciel espion, la plupart des gens vont connaître ça avec le mot spyware ou peut-être un logiciel malveillant. En gros, c'est un logiciel qui est installé sur un de vos appareils. Donc, ça peut être votre téléphone, un ordinateur, ou quoi que ce soit d'autre. Mm-hmm. Puis ça donne accès à distance à la personne qui l'a installé à pouvoir avoir accès à vos fichiers ou même aux appareils qui sont sur cet appareil-là. Donc, sur votre téléphone, on pourrait avoir accès à votre micro, à votre caméra, on pourrait entendre ce que vous dites
Et, donc, on s'entend que c'est épeurant là, de savoir. Ben si oui. on apprend que notre cellulaire a ça, il y a de quoi avoir peur.
Bien, tout à fait, c'est épeurant parce que là, on peut entendre tout ce qu'on dit et tout, mais en plus, on a accès aux images qu'on a partagées. Donc, si vous avez des images que vous partagez, que vous n'êtes pas supposé avec des gens, bien, on peut les voir, etc. Donc, oui, c'est épeurant. Puis, comme vous l'avez mentionné, c'est encore plus épeurant de savoir que ça a été fait sans même consulter le commissaire de la vie privée. Donc, mm-hmm. C'est quand même inquiétant, en effet.
Donc, comment ça a été mis en place ça, par la GRC?
Bien, en fait, ça a été mis en place à l'aide de partenaires, des partenaires qui font des logiciels. Mais l'affaire, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas c'est qui ce partenaire-là. Puis on leur a demandé, il y a eu des questions qui ont été prises, puis on n'a pas répondu. Puis ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que des partenaires comme ceux qui ont fait le software ou le logiciel Pegasus, mm-hmm. c'est NSO qui ont fait ce logiciel-là, par exemple, il y en existe plein d'autres, mais eux, ils travaillent avec des régimes où est-ce que les droits de la personne ne sont pas si respectés que non. ça. Donc, si on a travaillé avec eux, parce que c'est un logiciel qui est quand même puissant puis qui donnerait mm-hmm. un effet de levier à produire quelque chose de plus efficace plus rapidement, bien, on pourrait identifier des gens qui sont avocats, des journalistes et tout, puis aller un petit peu plus en détail dans,
oui, oui.
dans
et peut-être aller à des endroits où on ne pensait pas aller, où on ne prévoyait pas aller. Mais comme enquêteur, c'est une source d'information en danger, j'imagine.
Oui.
Est-ce qu'on sait sur quel genre d'enquête ces logiciels-là ont été utilisés?
Oui, bien, c'est là ce qui est promis. Parce qu'on dit que ce n'est pas utilisé en masse, ce n'est pas utilisé pour tout le monde. La réponse à ce qui a été dévoilé, mm-hmm. c'est que c'est utilisé vraiment pour des crimes, du criminel. Seulement, c'est fait seulement après une demande de requête ou tout ce qui est urgence nationale, on dit que c'est vraiment juste pour ça, pour le moment, que c'est utilisé.
Parce qu'il y a quand même des limites éthiques là, à utiliser ce genre de logiciel-là, même si c'est pour une enquête, on espère épingler des contrevenants.
Oui, exact, c'est ça le but, mais on ne sait pas si on est en train de contrevenir à la loi de la protection des ouais. renseignements de la vie privée. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder.
Merci beaucoup, Jonathan.
Ça fait plaisir.
C'est ce soir qu'a finalement lieu la première médiatique de la comédie musicale Annie, une semaine plus tard que prévu en raison de la COVID. Il y a ma collègue Camille Lorrain-Desjardins qui a rencontré le metteur en scène, Serge Denoncourt, et Kayla Tucker, qui interprète le rôle mythique de la petite orpheline rousse. Tous les deux avaient, vous l'imaginez, bien hâte de lancer le spectacle.
Donc, il y a eu comme un premier faux départ, mais là, c'est reparti. Comment ça va? Comment ça se passe?
Bien, il était temps. On avait hâte d'avoir du public parce que ça fait un bout qu'on le répète. Puis après ça, la COVID. Puis là, on a recommencé dimanche. Puis ça nous a fait du bien, les applaudissements, les larmes, les rires, les retours du public.
Je m'ai vraiment dit, je veux faire ça dans ma vie parce que c'est le fun. C'est le fun.
T'as aimé ça?
Oui.
On le voyait dans ta face.
Moi, c'était vraiment mon rêve de faire Annie. Puis, tu sais, j'ai écouté le film. Je l'écoute chaque année avec ma mère.
Et Kayla m'a envoyé une vidéo en me disant « C'est mon rêve de jouer Annie. » Et puis j'ai fait « Bon, ben je vais auditionner tout le monde. Elle est super bonne, mais tu sais... » Puis je suis revenu à Kayla tout de suite.
Pourquoi?
Ah, oh, ça, là, tu sais, c'est le grand mystère. Tu sais, pourquoi tu dis « elle, pas elle? » Mais je sentais qu'elle avait tout ce qu'il fallait, puis je me suis pas trompé. Elle chante, elle danse, elle joue bien. Elle a une grosse discipline de travail. Puis elle est bonne. Qu'est-ce que je te dis? C'est bonne. C'est pas de ma faute. Le monde est fou d'elle. Pas comme ça, là. Mais quand elle était bien, Annie, on l'adore.
Puis Kayla a commencé à travailler avec Serge.
Bien, travailler avec Serge, c'est vraiment le fun. Tu sais, il est tellement fin avec nous, puis il est drôle.
En même temps, elle est gentille, là, Kayla, mais tu sais, je suis exigeant. Je laisse rien passer, même s'ils ont 11 ans. Tout ça, mais pas dans l'agressivité, pas, mais tu sais, hey, les filles, vous pouvez faire mieux, je le sais, parce qu'on a quand même d'autres orphelines aussi. C'est vraiment une belle gang de filles sur scène et de filles. Power!
Kayla, c'est quoi ton moment préféré dans le spectacle? Qu'est-ce que t'aimes le plus faire?
Bien, de voir, qu'est-ce que tu vas dire?
Moi, je pense vraiment, c'est quand je vais au président. Ouais. Warbucks, il va au président, Roosevelt, puis il amène Annie.
Tout va mal, c'est la dépression.
Oui, Annie a dit, mais le soleil va briller demain. C'est vraiment Broadway. T'sais, la chorégraphie, t'sais, sont à genoux, ils font des jazz hands. T'sais, moi, je suis sur le bureau. T'sais, on chante demain tout ensemble avec toutes des harmonies. C'est tellement... c'est hot, puis c'est vraiment le fun de le faire.
Mais surpris quand même.
Ouais.
Tu vois, mais j'aurais pas pensé ça.
Pourquoi?
Parce que c'est pas ma scène... C'est une scène que j'aime beaucoup, là, mais moi, ma scène préférée, c'est... T'es-tu prête? Ma vie était vraiment plate.
Bien plate.
Tu peux le dire encore.
Encore.
Ma vie était vraiment plate. Mais ça,
c'était avant.
Ça, c'est ma chanson préférée. Après 2 ans de COVID, je pense que c'est le rendez-vous idéal. Une Annie qui nous dit « Le soleil brillera dès demain », puis qui nous dit « Il va, ça, tout va s'arranger ». Même moi, le grognon, j'avais besoin de ça un peu.
Daniel Morel, on passe au Festival d'été à Québec. Après 2 ans d'attente, les festivaliers sont de retour dans la capitale nationale pour assister à des centaines de spectacles. Le coup d'envoi du festival a lieu ce soir avec Charlotte Cardin, la programmation, mais également en vedette Alanis Morissette, Loud et Maroon 5.
Les plaines, puis ça, là, c'est une scène toute nouvelle. Il faut que tu nous en parles absolument parce que l'expérience va être améliorée énormément avec ça.
C'est une scène qui est un peu plus basse, donc ceux qui sont en avant-scène, autant dans les zones art que l'admission générale, vont voir des choses qu'ils n'ont peut-être jamais vues. Les écrans, ça aussi, c'est un plus. Là, on a rajouté une série d'écrans.
Exactement.
Vous l'avez vu là, à différents endroits, la vue est toujours extraordinaire. Donc, on a vraiment hâte que ce soit de soir illuminé.
Bonsoir, Étienne. On va commencer avec des images qui vraiment sont marquantes du côté de Toronto. Ouais, on a eu peur pour un homme. Là.
Bien, absolument. Regardez ces images spectaculaires. Un homme dans le vide, suspendu à une corde qui est tirée par une grue.
C'est pas un spectacle.
Ben non, il y en a qui pensaient que c'était un film, un canular, mais c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui crient d'effroi, qui voient ça. Ça s'est passé pour vrai. Ça a été confirmé par une compagnie de construction qui dit que l'employé du chantier s'est retrouvé là après une fausse manœuvre. Ouf. Attaché à la corde à laquelle il est pendu en ce moment. Mais finalement, ben, il s'en est tiré sans blessure. Peut-être un gros traumatisme, mais sans blessure. Mais toute une scène. Et puis évidemment, il y a une enquête du ministère du Travail de l'Ontario là-dessus. Mais une mauvaise position pour cet homme.
Oui, et c'est accroché, heureusement, pour lui. On va parler de politique. Il y en a un qui est dans une mauvaise posture également.
Qui s'accroche au pouvoir.
Oui, oui.
Boris Johnson, exactement, après un autre scandale. Et puis une trentaine de personnes de son cabinet qui ont démissionné. Mais il garde le cap, veut rester le premier ministre britannique.
Mm-hmm. Et à 22h ce soir?
Patrick Brown, le scandale. On reçoit Geneviève Tellier qui va nous analyser tout ça.
Merci beaucoup. 22h, on regarde ça. Merci d'avoir été avec nous, tout le monde. On se retrouve demain dès 17h30. Bonne soirée.